Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard, sans détour, 20 mars. Quand on dit 20 mars, ben on pense au printemps. Je pense qu'officiellement, le printemps, c'est demain, si je ne me trompe. Puis quand on pense au printemps, on ne peut être qu'heureux. Parce que comment peut-on être malheureux de l'arrivée du printemps? Enfin, à moins qu'on ait vraiment beaucoup de nostalgie liée au mois de janvier. Quoi qu'il en soit, alors demain, c'est le printemps. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on parle avec Pierre Bissonnette, directeur général de l'entreprise sociale NeuroPlus. En parlant de choses sociales et d'entreprises sociales, nous aurons aussi Anil Côté, directrice générale du Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal. Nous parlerons hockey, on se fait plaisir. On va parler du tournoi national de hockey sonore, hockey adapté pour des personnes handicapées visuelles. Tournoi national qui aura lieu à Toronto le week-end prochain. On rencontre Julien Blais-Savoie, joueur de l'équipe nationale qui représentera le Canada au moment de ce tournoi. Nous aurons Esther Hardy, notre chroniqueuse, je dirais tout azimut, qui fera la revue de presse avec nous à la dernière demi-heure. Mais pour commencer, Lynn Dubé, notre chroniqueuse en technologie, et on va parler de la voix. On me dit que c'est à 22h54. C'est mon astrophysicien ici, M. Tessier, qui me l'assure. Demain matin, on se lève, puis c'est le printemps. Tout ira mieux. Madame Dubé, bonjour.
Bonjour, ça va bien, M. Beauregard?
Ça va très bien, merci. Ça doit être le printemps. Là,
on s'anime. On dégèle.
Oui, exactement. On va essayer d'apprivoiser dans la chronique aujourd'hui comment lire l'écran. Évidemment, dans un contexte de déficience visuelle, puis parfois ça va être avec la voix, parfois ça va être autrement, puis tous les écrans ne sont pas pareils.
Effectivement, on avait déjà parlé des deux modèles, hein, qu'on parle d'Android ou qu'on parle d'iPhone, ça peut être différent. Puis quand on parle d'Android, ça peut être différent, parce qu'il y a beaucoup de modèles.
Il y a plusieurs versions.
Oui, c'est ça. Quand on parle d'iPhone, c'est le fun parce que souvent, on a le même écran. Évidemment, on peut réorganiser notre écran, que ce soit avec Android ou iPhone. Alors, notre écran peut vraiment être différent d'une personne à l'autre, mais essentiellement, on va y retrouver quand même des icônes d'applications dessus.
Côté Apple, c'est beaucoup plus standardisé, c'est beaucoup plus uniforme, oui. Il n'y a pas de surprise.
Il y a moins de surprises.
Oui, OK. Il y en a moins.
Ah oui, il y en a moins, parce que des fois, les clients me disent, je ne sais pas ce qui se passe, je ne trouve plus mon application téléphone ou contact. Bon, là, des fois, ce n'est pas nécessairement Apple. Moi, je les taquine en leur disant que ça peut être entre la chaise et le téléphone, le problème.
Oui, oui, tout à fait. Souvent, c'est l'opérateur, c'est pas la machinerie.
Non, c'est ça. Il faut se laisser du temps. Puis, ce qui est déstabilisant pour quelqu'un qui ne voit pas, c'est justement si on n'est pas capable de comprendre vraiment notre écran d'accueil, donc comment il est composé, comment s'y déplacer. Les gens, souvent, ils vont me dire, OK, mais là, j'ai un téléphone qui n'a pas de bouton. Je fais quoi?
Oui, exact.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est possible pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissaient pas vraiment les trucs d'accessibilité. On a plusieurs possibilités. On a le grossissement qu'on peut commencer. Souvent, quand on est en perte de vision, on ne va pas nécessairement plus voir du tout. Alors, il y a le grossissement qui peut s'activer. Puis, par la suite, on va basculer au mode sonore. Au début, hein, c'est comme une pollution.
Oui. Ah, ça, c'était... Moi, je vous avoue que je suis entre les deux. Moi, je suis rendu grossissement, contraste. Pour l'ordi à la maison, je me sers de... Il peut y avoir Zoom Text. Mais par erreur, j'active la voix que je n'ai pas demandée, là, je panique parce que c'est comme si elle n'arrêtait pas de parler.
C'est ça, il faut s'habituer, il faut s'adapter, mais constamment, de toute façon, quand on est en perte de vision, on ne se le cachera pas. Le gros de la chose, c'est de s'adapter, se réadapter constamment. Alors, on n'a pas le choix. Mais ça veut dire quand même que si j'arrive à m'adapter, je vais pouvoir retrouver de l'autonomie grâce à quelque chose qui, au début, me tapait sur les nerfs.
Oui, mais qui est un sacré bon outil.
Oui, c'est ça. Donc, pas intelligent qu'on parle ici d'Android ou d'iPhone, c'est la même chose. Ça sera juste pas les mêmes noms. Mais on peut parler de lecteur d'écran, puis on peut parler d'assistants vocaux.
D'accord.
C'est quoi la distinction entre les deux? C'est très important d'en faire une, parce qu'il y en a qui pensent que l'assistant vocal sera utile et juste ça, on peut se débrouiller puis tout faire.
J'ai parce que l'assistant vocal, c'est quand je m'adresse à mon téléphone pour obtenir, le numéro de téléphone de quelqu'un ou l'emplacement d'un magasin. Là, je demande à mon téléphone où est située telle ou telle boutique.
Oui. En fait, un assistant, c'est comme si c'était une personne avec qui on pouvait poser des questions et avoir une rétroaction. Donc, on les connaît bien, nos assistants vocaux les plus répandus. Il y a Siri pour Apple, il y a Google, le fameux OK Google.
OK Google, oui, voilà.
Pour le Google Home ou tout ce qui est appareil Android. Puis on a même Alexa, il y en a plusieurs autres. Alors, avec eux, on peut poser des questions. Mais on reviendra tantôt, si on a du temps, pour dire pourquoi que c'est pas juste utile d'avoir cet assistant qui nous aide, mais qu'est-ce qui peut compléter ça? Il peut avoir, comme on le disait tantôt, l'agrandissement. Sur iPhone, ça s'appelle Zoom. Je ne sais pas si ça porte un nom sur Android, mais on peut grossir notre écran, mais évidemment, on n'est pas sur un ordinateur, alors on a une limite d'agrandissement, hein, parce qu'à un moment donné, on ne voit plus rien à l'écran. Là.
puis souvent, on peut tomber sur un site où on pense qu'on voit toute la page, mais il y a comme un bouton cliquer, continuer ou accepter qu'on ne voit pas parce que la résolution est trop forte. Puis il faut tomber à une résolution tout petite pour que les boutons à cliquer en bas de page apparaissent. Mais là, si la résolution est rendue tout petite, on ne voit plus rien.
Effectivement. Alors, on en perd des bouts quand on est rendu avec un trop fort grossissement. Donc, c'est peut-être à ce moment-là où on doit penser à peut-être transférer puis aller vers le mode sonore. Et là, à ce moment-là, on va parler d'un lecteur d'écran. Sur Android, on peut en retrouver deux. Il y a TalkBack, puis il y a le Voice Assistant.
Oui.
Puis sur iPhone, on va l'appeler VoiceOver.
Oui. Alors, c'est un nom qu'on connaît beaucoup. Ça, c'est un nom dont on entend souvent parler dans la communauté handicapée visuelle. Oui.
Effectivement. Puis les trois sont quand même, je dirais, assez bien connus. Moi, j'ai une préférence pour le VoiceOver parce que j'ai l'impression que le TalkBack et le Voice Assistant, des fois, ne réagissent pas aussi bien. Est-ce que c'est une question de sensibilité d'écran ou autre chose? Je pourrais pas dire, mais je trouve que la réactivité, elle est très différente. Bon, ça, c'est un point de vue. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait un lecteur d'écran? Tantôt, on parlait d'une rétroaction de quelqu'un qui nous répond à une question. Donc, donne-moi le numéro de téléphone d'un contact, donne-moi la météo. Et là, c'est pas ça. C'est une rétroaction avec l'écran. Alors, quand je touche à mon écran, je veux pas que dès que je touche à quelque chose, ça s'active ou que ça s'ouvre ou que parce que je sais pas si je vais toucher la bonne chose vu que ma vision est rendue
exact,
moins bonne.
Exact. Puis là, on tombe dans un cercle vicieux. On ne sait plus où on est rendu.
Effectivement.
Voilà, on perd le contrôle.
Alors, la rétroaction, ça va être une rétroaction sonore. Donc, je touche à mon écran et la petite voix derrière, qui est soit VoiceOver, TalkBack ou Voice Assistant, va nous dire qu'est-ce qu'il y a sous notre doigt. Donc, on va appeler ça le focus. Le focus va nous permettre après ça d'interagir dessus. Et la grosse différence entre quelqu'un qui utilise un lecteur d'écran pour avoir une rétroaction sonore et quelqu'un qui ne l'utilise pas, ben c'est les gestes. Alors, pourquoi on doit donner des formations, on doit aider les gens, c'est que ce ne sera pas les mêmes gestes que quelqu'un qui n'utilise pas ce lecteur d'écran-là. Alors, si je touche, quelqu'un qui n'a pas de lecteur d'écran, ça active quelque chose. Moi, si je touche avec mon lecteur d'écran, ça va seulement me donner une rétro sonore et après, pour l'activer, je vais devoir ajouter un geste.
Que ce soit un clic, ça peut être aussi le curseur sur l'écran quand on est à l'ordinateur, là, puis qu'on manipule le curseur avec la souris. Ça devient plus compliqué parce qu'au lieu que ce soit le bout de notre index sur notre écran de téléphone, là, il faut comprendre le mouvement que notre souris sur le petit coussin va engendrer du curseur sur l'écran.
Effectivement.
Puis c'est dur parce que là, ça peut déraper. Là.
Mais là, je vais le comparer. Tant qu'à faire une comparaison avec le PC, je vais comparer ça avec nos raccourcis clavier. Alors, quand on est sur un ordinateur, si on utilise un lecteur d'écran aussi, qu'on peut utiliser soit JAWS ou NVDA, puis ça va nous permettre d'utiliser notre ordinateur avec le clavier sans la souris. Donc, tout faire à partir de des combinaisons. Alors, je vais utiliser mon ordinateur, mais pas de la même façon que quelqu'un qui n'aura pas de lecteur d'écran pour se faire lire son écran.
D'accord.
C'est le même principe.
quand on entend les vitesses de lecture de l'écran, les gens qui ne sont pas familiers, moi, il y a les premières fois que je frayais dans le monde handicapé visuel, j'étais abasourdi par la vitesse de lecture. Des voix, hein, quand les gens cherchent des courriels dans leur liste de courriels, là, puis comment... Ouais. Ça, c'est une question d'habitude, là?
Je dirais oui, puis je pense que c'est une question aussi très personnelle, parce que vous allez être surpris d'entendre de ma bouche que je suis utilisatrice autant d'un que de l'autre, et que j'aime pas avoir un débit excessif, parce que pour moi, c'est une agitation inutile.
D'accord.
C'est un stress inutile. Puis j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Il y en a qui vont dire ouais, mais ça va plus vite. Ouais, mais si je
c'est déplaisant à écouter. C'est déplaisant. Moi, c'est l'impression que ça me donne.
Puis récemment, je dirais il y a quelques mois, j'ai même modifié la voix de mon lecteur d'écran sur mon ordinateur parce que j'étais tannée d'entendre la petite voix que plusieurs préfèrent parce que c'est une voix qui est beaucoup plus. Il y a plus une rétroaction rapide, là, mais c'est une voix beaucoup plus informatisée. Là.
Oui.
Alors, moi, j'ai changé ça.
Qu'il existe la possibilité de changer le lecteur ou la lectrice de notre écran. Ça peut être une voix masculine ou féminine, puis il y a des intonations qui sont plus naturelles ou
agréables.
Exact,
aussi,
tout à fait.
Puis on peut modifier la vitesse. Alors, heureusement qu'on peut faire ça. Maintenant, je ne sais pas si vous voulez que je dise pourquoi que je prioriserais pas juste un assistant vocal.
Ben, pourquoi je vous le demanderais pas?
Pourquoi on veut pas se fier juste à un assistant vocal? Si vous appelez, j'ai des clients qui ont appelé chez Apple puis qui se sont déjà fait dire, mais vous avez pas besoin de VoiceOver, pourquoi vous utilisez pas que Siri? Et quelle mauvaise réponse!
Okay.
Parce que Siri utilise l'Internet. Alors, imaginez un bug. Imaginez, on n'a pas d'Internet, pas de Wi-Fi, il arrive quoi que ce soit, on est fait à l'os.
Oui, parce que là, à ce moment, oui, puis souvent, si on est mal pris, c'est parce qu'on n'est pas chez soi, ou ainsi de suite. Alors là, les choses se compliquent.
Je donne souvent l'exemple à mes clients. Vous êtes à l'extérieur, vous revenez à la maison, vous êtes en train d'attendre votre ami, le transport adapté, vous attendez, là. Et là, il est en retard, vous vous demandez, vous vous inquiétez. Et là, vous dites à Siri, appelle à une place. Ou OK, Google, appelle. Puis, il n'y a pas de rétroaction puis où ça dit qu'il y a un problème. Hey, vous allez être dépourvu. Alors, s'il vous plaît, il faut se donner la peine d'apprendre le lecteur d'écran pour être capable d'accomplir les tâches. Oui, l'assistant vocal vous permettra d'être beaucoup plus rapide quand ça fonctionne, mais c'est pas négligeable d'avoir le lecteur d'écran au bout des doigts.
Je vais vous amener pour terminer sur un sujet qui est complètement différent, mais moi, je m'en sers vraiment beaucoup. C'est dicter des textes.
Ouais.
Parce que je suis paresseux sur le clavier. Là. au lieu de faire toujours taper R au lieu de E, les lettres qui sont toujours à côté. Là,
c'est plus rapide.
Alors, moi, j'utilise souvent pour la composition de courriel. Ou de quoi que ce soit, le fait de pouvoir dicter des textes. Puis ça me sauve du temps. Mais il faut faire attention de le faire comme il faut parce que sinon, on va dicter du charabia.
Ben moi, je dirais deux choses. La première, c'est on doit apprivoiser la dictée vocale de sorte à bien parler, puis lentement, pour être sûr d'être bien compris. Mais on ne peut pas passer à côté d'être capable, une fois de plus, d'être capable d'utiliser le lecteur d'écran pour se corriger au besoin.
Oui,
Tant mieux si vous n'avez pas besoin.
Ben oui, tout à fait, pour se réentendre. J'ai un de mes amis qui dicte tous ses textos puis ses courriels puis qui ne se relie pas beaucoup. Puis je vais vous dire que c'est assez rigolo. D'autre côté, il faut presque lire à haute voix en essayant de comprendre ça ressemble à quelle phrase. Mais puis je pense qu'il n'y a pas le filtre parental.
Effectivement, puis moi, je dis tout le temps, on est non-voyants, mais on ne veut pas passer pour des illettrés.
Voilà, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Mme Dubé. On va se reparler dans quelques semaines.
Oui.
Puis on va continuer à explorer la technologie ensemble.
Excellent.
Merci.
Bonne journée. Bon printemps.
Le Québec et partout dans le monde, on vit dans l'économie une pénurie de main-d'œuvre. Et pourtant, il y a des gens qualifiés, capables et je dirais extraordinairement utiles en entreprise qui parfois peuvent avoir de la misère, de la difficulté à se placer et pour permettre justement à ce que tout le monde puisse avoir un emploi satisfaisant et que le potentiel de chacun soit développé. La société, l'entreprise sociale NeuroPlus, dont nous accueillons le directeur général, M. Pierre Bissonnette. NeuroPlus fait un peu le pont entre les candidats et les employeurs. Bonjour, M. Bissonnette, comment ça va?
Bonjour, M. Bonnagard. Ça va très bien, merci. Vous-même?
Ça va bien. Je ne sais pas si j'ai bien résumé la situation, le oui. rôle de NeuroPlus.
Non, c'est exactement. Il y a vraiment un besoin. De des entreprises ou des sociales ou d'autres formes d'organismes pour aider les employeurs existants à pouvoir bénéficier de cette source additionnelle de talent qui existe ici même au Québec, au Canada, qui sont capables, qui sont disponibles, qui veulent travailler. Et ça, c'est des personnes neurodivergentes, des personnes atypiques. La plupart, beaucoup d'entre eux, c'est des personnes autistes ou Asperger, que c'est des personnes vraiment qui ont une bonne éducation en toutes sortes de domaines, en comptabilité, en finance, avec les logiciels, en informatique, plein de domaines. Et ce qui est vraiment triste comme statistique, c'est que moins que 15% de ces personnes-là
sont 15% de gens qui sont aptes au travail.
Sont aptes au travail, oui, c'est vrai. Parce que si on regarde Je peux parler deux secondes des statistiques. Maintenant, c'est aussi haut qu'un enfant sur 67 qui est sur le spectre de l'autisme. Mais oui, le spectre, c'est large. Vous avez raison. Un bout du spectre, c'est des gens que parfois, ils ont des déficiences intellectuelles ou d'autres choses comme ça, qui ne leur permettent pas de travailler. Il y en a qui peuvent travailler, veulent travailler. En ce temps-là, c'est plus des emplois manuels. Et on a d'autres compagnies qu'on connaît bien qui les embauchent, des compagnies comme des Loblaws, des Chocolat Favori, des Gritac, etc. Mais ça, c'est pas nous. Nous, notre focus, c'est des personnes plus à l'autre bout du spectre. Oui. Donc, pour vous donner une idée, il y en a plus que 10 000 au Canada en informatique, des personnes autistes. Il y en a plus que 5 000 en finance, en comptabilité. Il y en a en droit, il y en a en marketing numérique, il y en a en plein de domaines. Et ces personnes-là, c'est là que nous, on voit ce bassin-là que moins que 15 % ils ont un emploi dans leur domaine. Et donc, on veut essayer de régler cette injustice-là qu'on
exact.
Peut
exactement. Ça pénalise tout le monde. Ça pénalise les gens qui ne trouvent pas l'emploi dans lequel ils pourraient s'épanouir. Mais exact. Ça pénalise aussi toute la société parce que c'est un potentiel énorme qu'on gaspille.
Vous avez très raison. Puis c'est des personnes que... Puis là, bien sûr, le monde peut se poser la question, mais pourquoi qu'il y en a juste 15 % qui ont un emploi? Puis avant la porte de ça, mais je vais dire que ces personnes-là, non seulement, oui, sont très compétents, puis ils ont des bonnes notes à l'école, etc., mais aussi souvent, ils ont des atouts qu'une personne normale, une personne typique, n'a pas ou qui sont supérieurs à eux. Comme exemple, des jobs où on a besoin d'une concentration soutenue, oui. Où est-ce qu'on a besoin, où est-ce que la qualité, c'est bien important, parce qu'ils sont très minutieux, l'attention aux détails, ça, c'est important pour eux, ils sont bons là-dedans pour reconnaître les patterns, s'il y a quelque chose en cybersécurité, ils détectent des choses mieux que la moyenne des gens, qui ont aussi une analyse très logique de comment que les choses se font, et souvent, ils peuvent tout de suite voir que les processus, même existants dans une entreprise, quand ils arrivent, et ça arrive à nos personnes, ils disent, ben mon Dieu, c'est pas tellement logique comment vous faites ça. Puis là, ils expliquent comment qu'eux autres le feraient. Puis les entreprises disent, oh mon Dieu, c'est super d'avoir oui, une personne oui. avec une diversité, une autre dimension.
Quand on dit thinking out of the box, là, ben c'est exactement ça.
Exactement. Puis là, je vais répondre à la question de pourquoi que moins de 15 % d'entre eux ils ont une job dans leur domaine malgré tout ça. C'est relativement simple. C'est que oui, plusieurs de ces personnes-là, ils sont, on peut dire, maladroits socialement. Puis en étant maladroits socialement, ça enlève rien à leurs compétences, mais souvent, ils arrivent en entrevue avec des personnes qui font l'entrevue de l'autre côté, qui n'ont aucune idée c'est quoi une personne autiste ou Asperger, etc. Puis oui, ces personnes-là, la façon qu'ils peuvent répondre à des questions, ça peut avoir l'air des fois un peu différent. Comme exemple, ils sont très littéraux dans les questions, dans la façon de les adresser. Puis, je vais vous donner un exemple qu'encore, j'étais sur un appel. Des fois, j'écoute les entrevues, puis une de nos personnes autistes se faisait poser la question. Mathieu, pourquoi qu'on embauche à toi versus quelqu'un d'autre? J'ai plein de CV sur mon bureau. Puis, ma personne autiste, super gentil, Mathieu, la façon qu'elle répondit ça, c'était, je suis désolé, mais c'est une question injuste. Alors, j'ai pas ces CV-là devant moi, mais si vous me les envoyez par courriel,
je vais vous aider à faire le tri, si vous voulez.
Je vais faire le tri, je vais vous dire si oui ou non, je pense que je suis la meilleure personne, puis ils sont tellement honnêtes qu'ils le diraient si c'est pas eux, mais en même temps, c'est un peu drôle la façon qu'ils répondent.
Oui, puis c'est pas... l'employeur, la personne en ressources humaines qui fait l'entrevue d'embauche se fait servir une réponse comme ça, elle peut mal le prendre, elle va penser que l'individu se moque de lui ou ne comprendra pas. Puis souvent, comme on parlait de la capacité de pouvoir rapidement diagnostiquer un processus dans l'entreprise qui est inefficace et de vouloir proposer des nouvelles méthodes, la personne atypique parfois va passer ce message-là relativement rapidement à son arrivée dans l'entreprise. Puis parfois, pas de la bonne manière. Puis là, tout d'un coup, tout le monde va dire, ben de quoi il se mêle? Il vient d'arriver, puis il se pense plus fin que nous. Ben c'est parce que des fois, oui, il est plus fin, mais c'est juste que non. Ça sort pas bien.
Vous avez raison, M. Boulard. Oui, c'est ça. Ils sont pas compris que des fois, justement, surtout que plusieurs qui vont dans des entreprises sans accompagnement, puis je vais expliquer ce que nous, on fait comme accompagnement pour s'assurer que ça fonctionne, mais ils arrivent, c'est pas étiqueté sur leur front qu'ils sont atypiques, qui sont autistes, Asperger. Et donc, les collègues aussi, ils peuvent parfois mal prendre des choses. Ça peut être des choses aussi simples comme, encore, si on envoie un courriel à Mathieu, disant « Hey, salut Mathieu, j'espère que tu as eu un beau week-end. T'as-tu eu la chance de lire ce que je t'ai demandé de faire la semaine passée? » La réponse de Mathieu risque d'être juste oui ou non. Parce que pour lui, le reste, c'est du blablabla, parce qu'ils sont très directs, ces personnes-là.
Oui.
Et donc, mais si la personne à l'autre bout comprend pas, c'est parce que Mathieu est un peu différent, mais là, ça peut paraître comme c'est quoi son problème, il y a donc bien la bête, etc.
Oui.
Fait que c'est ça. Fait que nous, ce qu'on fait pour s'assurer que tout fonctionne, puis je peux vous donner un petit peu des idées entre mes deux collègues, Bruno, Martin et moi-même. En passant, mes deux cofondateurs, Bruno Vicker, lui, un doctorat en neurosciences, il se connaît vraiment dans la matière, il est en charge du recrutement des personnes neurodivergentes. De l'autre côté, j'ai Martin Prévost, qui lui a plus que 30 ans d'expérience à former des accompagnateurs, fait que c'est du monde vraiment qui se connaissent dans ce qu'on fait. Puis nous, ce que ça pourrait dire, ce qu'on fait comme accompagnement, c'est prendre les choses en charge dès le début. Donc, aussitôt qu'on a une personne autiste qui arrive chez nous, premièrement, on passe des journées avec eux. Non, on ne le charge pas une scène, notre entreprise sociale. Puis la raison qu'on passe du temps avec eux, des journées, c'est qu'on veut les connaître. On veut vraiment les connaître pour mettre les bonnes personnes dans le bon poste.
Oui.
Et donc, on leur fait faire des tests cognitifs. On les met en environnement d'équipe, voir qui a du leadership, qui en a pas, qui est introverti, qui est extroverti. Avec le but, c'est pas d'exclure des gens, mais c'est de mettre les bonnes personnes dans les bons postes.
C'est de mettre les meilleures conditions possibles quand ça va être l'entrevue, que ce soit pour un poste
exactement.
Qui va correspondre à la personne.
C'est ça. Puis nous, ça fait plus que, entre nous trois, ça fait plus que 65 personnes, là, maintenant, qu'on place de neurodivergents dans des grandes et des petites entreprises, des grandes comme Desjardins, Beneva, Industrielle Alliance, CGI, des compagnies comme ça, mais aussi des petites. Il y en a qui sont juste trois personnes qui développent des sites web. Ça n'a pas d'importance, la grandeur de l'entreprise. Mais ce qu'on fait, c'est oui, dès le début, quand un partenaire, un employeur nous dit « OK, on veut embaucher quelqu'un, ceci est la description de poste.
Oui. »
Fait que là, on envoie des CV de des personnes qu'on pense sont bons pour le poste. C'est là que s'ils disent « Oui, on veut les interviewer. » C'est là qu'on demande quelque chose un peu différent. Là, on dit « OK, on veut savoir ça va être qui va être sur l'entrevue de votre côté. » Puis là, qu'est-ce qu'on va faire, c'est pendant une demi-heure, on va les sensibiliser à c'est quoi l'autisme. Comme ça, ils savent que c'est la personne à répondre.
Oui, puis en fait, vous faites, si je peux me permettre pour terminer, oui. M. Bissonnette, vous faites le lien du début à la fin. Puis ça augmente de beaucoup, oui. Beaucoup le taux de succès.
Ben,
NeuroPlus, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui, M. Bissonnette, mais ça va être tout. NeuroPlus, allez sur leur site, vous allez tout trouver.
Exactement.
Merci beaucoup, bonne journée.
Une belle journée.
Tous les jours, écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Rebonjour après la pause. L'économie sociale, on vient d'en parler avec M. Pierre Bissonnette de NeuroPlus, mais ça touche toutes sortes de domaines, pas juste l'emploi, ça touche l'agriculture, le recyclage, les outils, le textile. Enfin, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mme Anil Côté, qui est directrice générale du Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal. Bonjour, Mme Côté.
Bonjour, M. Beauregard.
D'abord, qu'est-ce que le Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal? C'est quelle sorte d'organisme? Qui est derrière ça?
Alors, le CESIM, en fait, le Conseil d'économie sociale de l'île de Montréal, on est un réseau pour les entreprises d'économie sociale montréalaise.
D'accord.
Alors, nos membres, ce sont principalement des entreprises d'économie sociale. Et quand on parle d'entreprises d'économie sociale, on parle d'organismes à but non lucratif, de coopératives ou de mutuelles qui ont une activité économique. Donc, on côtoie souvent l'économie sociale au quotidien et on s'en rend pas toujours compte. On pense notamment au magasin Renaissance qui est une entreprise d'économie sociale. Ils ont plusieurs points de service
oui,
sur
oui,
l'île de
ça,
Montréal.
C'est un nom qu'on peut reconnaître, en effet.
Effectivement, mais on pense aussi au cinéma Beaubien, au cinéma du Parc, au centre de petite enfance, à certaines friperies. Il y a plusieurs aussi entreprises d'insertion socio-professionnelle. Donc, nous, on regroupe ces gens-là Et puis, on vise à développer, à consolider le modèle de l'économie sociale, parce qu'on dit souvent, c'est pas un secteur d'activité, l'économie sociale, mais c'est un modèle d'entrepreneuriat.
C'est une façon de faire. Puis pour nous éclairer, je vous demande peut-être de commencer par l'ABC. Qu'est-ce qui caractérise une entreprise dans l'économie sociale? Qu'est-ce qu'elle a comme façon ou caractéristique? On va pouvoir dire, ah, ça, c'est une entreprise d'économie sociale. Parce qu'il ne faut pas que des entreprises se drapent avec le drapeau, là, pour dire, ah, oui, moi, je fais ça, hein? Alors que ce n'est pas vrai.
Effectivement, la particularité de l'économie sociale, c'est que ce sont des entreprises collectives. Et donc, il n'y a pas un propriétaire unique, mais ce sont des entreprises qui ont la forme juridique d'un organisme à but non lucratif ou une coopérative. Et dans ces structures-là, comme par exemple dans une coopérative, on a un membre, un vote. Donc, c'est pas l'argent qu'on investit dans une organisation. Tout le monde a le même poids dans cette organisation. Donc, on dit souvent que ces OBNL ou ces coopératives sont des entreprises collectives. L'autre différence majeure, c'est ensuite comment on redistribue lorsque cette organisation-là fait des surplus. Donc, souvent, dans une entreprise qu'on pourrait dire plus classique, lorsqu'il y a des profits, ils sont pas réinvestis dans l'entreprise, c'est un propriétaire unique qui détermine ce qu'il souhaite en faire. Dans une entreprise d'économie sociale, les surplus sont réinvestis dans la mission de l'organisation, parce que la particularité d'une entreprise d'économie sociale, c'est d'avoir une mission. Et sa mission...
Et cette mission-là a une vocation, je dirais, altruiste. C'est pour améliorer la société ou la communauté dans laquelle elle est active.
Vous avez tout à fait raison. L'objectif qui est visé par une entreprise d'économie sociale, c'est une transformation sociale. L'objectif qui est visé n'est pas une maximisation du profit, mais bien de transformer la société. Et donc, en ce sens-là, il y a beaucoup d'entreprises d'économie sociale qui visent à offrir, à favoriser l'accès, que ce soit l'accès à des sports et des loisirs, à des coûts abordables, que ce soit l'accès à la culture, que ce soit l'accès à un emploi décent, donc beaucoup d'entreprises en insertion socio-professionnelle. Donc, il y a beaucoup cette notion d'inclusion et de s'assurer d'avoir un modèle qui soit juste et inclusif à l'échelle montréalaise.
Et il y a aussi souvent un aspect écologique à l'activité, parce que ça aussi, c'est une façon de faire du bien à la société et à la communauté. Souvent, les entreprises d'économie sociale, on le voit, sont impliquées à recycler, réduire au maximum le gaspillage, et avoir dans ce sens-là aussi une certaine, je dirais, conscience écologique.
Tout à fait. Bien, j'évoquais tout à l'heure l'exemple des magasins Renaissance. C'est exactement ce qu'ils font, c'est qu'ils détournent notamment des matières textiles qui autrement auraient été à l'enfouissement. Et non seulement ils peuvent les revendre, une entreprise d'insertion socio-professionnelle, mais aussi ils ont tout un projet actuellement pour voir comment revaloriser certaines fibres textiles. Donc, vous avez tout à fait raison, les entreprises qui ont une mission, je dirais, écologique très forte, mais au-delà de ça, je dis souvent que l'économie sociale participe déjà à cette transition socio-écologique, parce que on parle d'une économie aussi qui est locale. Hein? Les entreprises d'économie sociale ne vont pas se délocaliser. Elles visent d'abord à répondre à un besoin dans leur communauté. Donc, en ce sens-là, l'objectif, c'est vraiment de desservir notre communauté, et elles sont les entreprises de proximité. Donc, à cet égard-là, elles agissent localement et les retombées sociales et économiques sont dans la communauté. Donc, je dirais qu'un dollar investi dans une entreprise d'économie sociale équivaut à un dollar là, dans sa communauté qui est réinvesti.
Et ça fait un lien justement avec le lancement de la 6e édition de votre initiative, l'économie sociale j'achète, parce que là justement vous essayez de faire le maillage entre les organismes de grande taille que l'on retrouve dans le tissu économique montréalais et les entreprises d'économie sociale qui sont ici.
Oui, tout à fait. L'initiative l'économie sociale j'achète est venue justement de ce besoin de dire comment on peut s'assurer que des grandes institutions comme la Ville de Montréal, comme Hydro-Québec, comme la SAQ, puissent s'approvisionner davantage auprès de l'économie sociale, donc mieux connaître cette forme d'entrepreneuriat-là et les soutenir, parce qu'évidemment, ce sont de grandes institutions qui achètent énormément, oui, et qui ont besoin de toutes sortes de produits et services. Donc, pourquoi pas faire ces mariages avec l'économie sociale et l'économie sociale j'achète. Donc, qu'est-ce que c'est l'économie sociale j'achète? Ben, en fait, c'est une initiative pour mettre en lien ces grandes institutions et ces entreprises d'économie sociale. Donc, d'un côté, on offre de la formation et de l'accompagnement pour nos entreprises d'économie sociale. Ça, c'est le CESIM notamment qui fait ce volet-là. Et de l'autre, bien, on sensibilise les institutions publiques et des grandes entreprises privées à l'économie sociale. Puis entre les deux, on organise ce qu'on appelle justement des activités de maillage qui permettent aux institutions de connaître l'offre de produits et services des entreprises d'économie sociale. Donc, c'est ce qui constitue notre initiative. Jusqu'à présent, on a 35 grandes institutions publiques et privées qui ont rejoint le mouvement. Et on a une vingtaine d'entreprises d'économie sociale là, qui participent à chaque cohorte.
Donc, quand on parle de grandes institutions, on parle de Ville de Montréal, vous mentionniez Hydro-Québec, ça peut être Énergir, la SAQ, Aéroport de Montréal. Alors, c'est des acteurs importants dans l'économie ici à Montréal. Et de toute évidence, ce sont des acheteurs importants parce qu'ils ont toutes sortes de besoins et des budgets à la clé. On parle de combien de contrats, de contacts au fil des ans qui se sont établis?
Bien, je voudrais juste, dans la dernière édition, on a eu près de 130 contrats qui ont été signés pour une valeur de 11 millions de dollars. Mais si on le ramène au fil de nos éditions, là, c'est plus que 1800 contrats qui ont été signés pour un chiffre d'affaires global de 55 millions.
Et ça, c'est 55 millions qui retombent dans des entreprises qui souvent ne sont pas elles-mêmes de très grande taille. Alors, ça fait une différence. Ça leur permet de se faire connaître.
Tout à fait. Et ça fait non seulement une différence, effectivement, pour ces entreprises-là, mais aussi pour les populations que ces entreprises desservent. Parce qu'évidemment, lorsque je disais tout à l'heure, les retombées sociales et économiques, c'est qu'à chaque fois qu'on achète auprès d'une entreprise d'économie sociale, on lui permet d'accomplir sa mission. Et ce que ça veut dire pour une entreprise, c'est si elle a des surplus ou si elle est en mesure de faire davantage d'activités, bien, c'est autant, par exemple, de jeunes qu'on rejoint pour des camps de jour. Ça permet d'offrir, par exemple, plus de camps de jour. Ça permet d'offrir, par exemple, plus de repas à des populations qui sont plus vulnérables, dans le cas des entreprises qui sont notamment dans le domaine du service traiteur. Donc, c'est aussi ça qui est important pour ces grands acheteurs-là, parce qu'il y a plusieurs années, on parlait moins de ces retombées sociales et économiques dans la communauté. Et on sent vraiment un mouvement de la part des grandes institutions que vous évoquiez tout à l'heure, là, d'avoir un impact encore plus grand. Et les achats sont bien sûr un des leviers que ces institutions et ces entreprises ont à leur disposition. Et je vous dirais qu'elles ont beaucoup d'ouverture un souhait très, très grand là, d'accroître leurs achats et leurs approvisionnements auprès de l'économie sociale.
Oui, parce qu'il y a plusieurs années, on pouvait penser que cette adhérence à la vertu de la part des grands acteurs économiques, parfois, c'était quelque chose de joli à mettre dans un rapport annuel, mais on mettait pas nécessairement tout ça en action. Mais là, il y a beaucoup plus une volonté d'avoir une influence positive dans le milieu où l'entreprise est implantée dans le monde des grandes sociétés. Ça fait une différence. Au-delà de Montréal, l'économie sociale, j'achète, vous avez, je dirais, créé des systèmes ou des maillages similaires dans d'autres endroits. Vous êtes dans le Bas-Saint-Laurent maintenant.
Oui, tout à fait.
Vous avez parrainé ce qui s'y passe.
Oui, tout à fait. C'est un beau projet que d'essaimer aussi dans d'autres régions du Québec. Et puis cette année, on a le plaisir d'accompagner nos collègues de la région du Bas-Saint-Laurent qui mettent en place une initiative similaire à la nôtre avec les entreprises d'économie sociale de leur territoire. Et puis, je vous dirais aussi qu'à l'échelle du Québec, il y a aussi des initiatives là, similaires. Il y en a une en Estrie et puis il y a d'autres régions qui mettent en branle ces initiatives-là. Donc, il y a vraiment un mouvement très dynamique pour soutenir les entreprises d'économie sociale. Et je dis souvent, pas parce que ce sont des entreprises d'économie sociale, mais bien parce que, vous disiez tout à l'heure, ce sont souvent des petites entreprises et de travailler ou de vouloir offrir ses produits et services à des grandes entreprises, mais ça exige aussi de revoir nos façons de fonctionner. Et c'est vrai pour toute PME qui souhaiterait faire affaire avec ces grands donneurs d'ordre. Donc, il y a des ajustements à faire dans son organisation et puis de se dire, ben, est-ce que c'est le moment et est-ce que j'ai envie aussi de faire affaire avec ces grands donneurs d'ordre-là parce que ça prend évidemment certaines capacités.
Il faut être capable, pour parler d'une façon simple, de faire ce pour quoi on a contracté. Il faut être capable de donner le service pour lequel on vient de signer un contrat. Alors, ça va pousser peut-être à changer des méthodes de gestion ou être plus efficace. Alors, ça oblige l'entreprise d'économie sociale elle-même à se dépasser parce que tout d'un coup, la commande est haute.
Oui, exactement. Puis en fait, c'est pas c'est souvent parce que ce sont des petites entreprises, souvent dans beaucoup de cas, c'est des entreprises de moins de 5 employés. Donc c'est sûr que à ce niveau-là, on a aussi des entreprises qui ne souhaitent pas forcément développer ces marchés-là. Donc nous, on travaille avec des entreprises d'économie sociale qui disent moi, j'ai envie de développer ces marchés-là, j'ai envie de travailler avec les grands acheteurs publics et privés. C'est quoi les outils qui sont à ma disposition pour arriver à offrir mes produits et services? Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que nous, on accompagne les entreprises d'économie sociale.
Et ça, ça va bien au-delà de la campagne qui est en ce moment, là, la 6e édition de l'initiative J'achète, parce que votre action est à l'année longue. Là. Une fois que cette campagne va se terminer, plus tard ce printemps, ben vous allez continuer de travailler dans ce sens-là.
Oui, bien sûr, parce que ça fait quand même quelques années qu'on travaille sur ces questions-là, de dire comment on facilite l'accès aux entreprises d'économie sociale. Et il y a évidemment des changements réglementaires à y apporter. Et il y a tout juste un an, d'ailleurs, le gouvernement du Québec là, annonçait qu'il voulait accroître ses achats responsables là, de près de 1,5 milliard
d'ici 2026. Oui. Là, alors, il y a une volonté politique en plus derrière tout ça.
Exactement. Donc, si on le disait tout à l'heure, on sent bien ce mouvement-là, à la fois des gouvernements, mais également des grandes institutions publics et privés à acheter davantage auprès des entreprises d'économie sociale et à acheter aussi localement. Hein. On a vu avec la pandémie qu'on était, je dirais, à découvert sur certains de nos produits et services. Là,
oui, il y a eu des ruptures de chaînes logistiques et des choses comme celle-là. Puis ça l'a mis peut-être au jour des lacunes qui existaient dans nos façons de faire. Bien, Mme Côté, merci beaucoup d'avoir été là pour en parler. Puis on va suivre la campagne de près et s'y retomber.
Je vous en prie, merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Porque puede.
dispuestos a soñar. Fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
De retour. Bien, là, je vais vous dire, chers auditeurs, auditrices, que je me fais plaisir. Alors, et on va mettre tout de suite le décor, qu'on se comprenne bien. Mon prochain invité, M. Julien Blais-Savoie, est joueur de l'équipe nationale du Canada, de l'équipe nationale de hockey sonore. Et non seulement je connais bien M. Julien Blais-Savoie, mais je dois vous avouer que moi aussi, je suis membre de l'équipe nationale. Et j'ai le plaisir de jouer avec Julien à la ligne bleue. Alors, on est comme une paire de défense, là. On peut dire ça comme ça. Et je ne pourrais pas vous voir, Julien. On se comprend. Je m'excuse. On va laisser tomber le vouvoiement. Bonjour, Julien. Comment ça va?
Salut, François. Ça va bien?
Ça va bien, merci. Alors, pour le bénéfice de nos auditeurs, le hockey sonore est une façon de jouer au hockey pour des personnes qui sont handicapées visuelles.
Effectivement. C'est le hockey, comme tout le monde le connaît, notre sport national canadien, qui est quelque peu adapté pour les gens handicapés visuels, comme toi et moi. Donc, la principale différence, là, c'est la rondelle qui fait du bruit, d'où l'appellation hockey sonore. Donc, la rondelle fait du bruit, ce qui nous permet aux handicapés visuels sur la patinoire de pouvoir repérer la rondelle au son. Là. Si on veut simplement expliquer, là, je te dirais que c'est ça.
Parce que la rondelle a fait du bruit parce qu'elle n'est pas faite comme une rondelle de hockey ordinaire.
Non, effectivement, c'est ça. Donc, la rondelle, on pourrait dire, elle est le double de diamètre d'une rondelle normale, puis elle a le double d'épaisseur. Elle est faite en métal, puis à l'intérieur, il y a 8 ou 10, je ne me souviens plus, là, billes de métal qui vont cogner à l'intérieur. Donc, à chaque fois qu'il y a un impact, ben ça crée du bruit, que la rondelle frappe la bande, qu'elle frappe un bâton, etc. Donc, même qu'elle tourne sur elle-même, là, ça crée un...
Comme un grelot géant,
exactement
finalement.
Exactement ce que j'allais dire, oui.
Ouais. Et cette rondelle, parce qu'elle est plus grosse, elle est plus lente aussi, parce qu'elle elle crée de la friction sur la glace, puis elle fait du bruit, ben pour les joueurs handicapés visuels, ben ça nous permet, ou ça permet aux joueurs et joueuses... de pouvoir se repérer plus rapidement sur la glace. Mais il y a d'autres adaptations par rapport au hockey traditionnel.
Effectivement. Il faut dire aussi que les gardiens de but sont aveugles ou presque, là, mais on va leur mettre un masque là, pour être sûr que il y a parfois des gens qui sont aveugles, mais qui ont une légère
résidu.
Perception, mais. Donc, on met un masque. Donc, les gardiens de but sont complètement aveugles. Le filet, au lieu d'avoir 4 pieds de haut, a 3 pieds. Et l'autre règle qui est particulière au hockey sonore, c'est que l'équipe qui rentre en zone adverse, donc qui traverse la ligne bleue, doit se faire une passe de joueur à joueur avant de pouvoir compter un but. Donc, avant de pouvoir tirer ou pouvoir compter un but, il faut que ce soit de joueurs de la même équipe à la même équipe, une passe. Donc, ça empêche, si on veut, l'échapper, là, comme on le connaît dans le hockey normal. Donc, ça permet vraiment au gardien de but d'avoir au moins une chance de repérer la rondelle quand elle est près de lui ou dans sa zone.
D'accord. Et quand cette passe-là est faite et que, disons, l'obligation de compléter une passe en zone offensive est cochée, là, à ce moment-là, l'arbitre signale...
Oui, donc, l'arbitre a un sifflet spécial qui signale que la passe a été effectuée, puis là, il pourrait y avoir un lancer ou un but.
Donc, à ce moment-là, le gardien qui, on le répète, ne voit rien, est capable de prendre sa position, de se repérer, et là, parce qu'il entend évidemment la rondelle qui glisse d'un bâton à l'autre, et de se préparer à un lancer. Et comme le but est plus bas, ben, ça décourage le joueur qui tire d'essayer de danser un peu trop haut, là, parce qu'il faut quand même... Parce qu'on doit le reconnaître, les gardiens de but au hockey sonore sont des gens, c'est des kamikazes, là, parce que ne pas voir grand-chose, puis être susceptible d'essayer de bloquer une rondelle en métal là, qui peut être tirée avec force, là, ça demande un peu de courage, puis un peu de folie, mais beaucoup de courage, voilà.
Effectivement. Oh, oui, des fois même, je me surprends à faire un lancer, puis... qui arrive par exemple sur le torse, là, puis, tu sais, je me dis, être à la place du gardien, puis, souvent, je dis, on va les voir après là, quand c'est nos collègues, là, t'es-tu correct?
Et tu en sais quelque chose, parce que plutôt cette saison, tu as remplacé à titre de gardien de but, parce qu'on manquait de gardien cette soirée-là là, pour des questions, pour des raisons indépendantes de notre contrôle. Alors, à Montréal, on joue au hockey sonore depuis longtemps.
Ben, on joue depuis, corrige-moi si je me trompe, mais plus de 40 ans maintenant. La ligue, notre ligue s'appelle les Hiboux de Montréal et on joue tous les lundis soirs. Effectivement, là, cette saison, il manquait un gardien de but une soirée, puis c'est arrivé à quelques occasions, fait qu'on a levé la main à tour de rôle pour remplacer. C'est le fun ça a été vraiment une expérience d'essayer ça. Là, on va dire aux auditeurs, je ne l'ai pas fait les yeux bandés pour la première fois parce que c'est sûr que quand on est handicapé visuel, on est quand même habitué de se repérer.
Oui, un petit peu. Fallait quand même être, je dirais, être bon prince, là, puis pas obliger quelqu'un qui n'avait jamais été gardien de but sans aucune vision à essayer l'affaire. Alors, il y a une équipe à Montréal qui s'appelle les Hiboux. On en sait quelque chose. On joue ce soir à 20h à l'Aréna Francis Bouillon, près du métro Préfontaine. Tout le monde est invité à venir nous voir. Mais il y a des équipes partout au Canada et en Amérique, ailleurs.
Ouais. Écoute, je pense qu'au Canada, il y a plus de 10, même 12 associations de joueurs handicapés visuels qui forment une équipe. Les principaux, on va dire, c'est Montréal avec les Hiboux, avec Toronto, les Ice Owls. Les Ice Owls de Toronto, c'est la plus vieille équipe de hockey sonore au Canada.
Oui, depuis le début des années 70, exact.
Exact. Puis il y a les Eclipse de Vancouver, les Seeing Eyes Dogs de Calgary, les Seahawks de Moncton. Bref, il y en a beaucoup. Certains sont plus petits, mais à Montréal, et Toronto, Vancouver,
C'est des clubs qui ont de l'expérience avec quand même beaucoup de joueurs.
Bien sûr, puis par le bassin de population aussi, par la distance qui est moins grande à cause que les grands centres sont là. Mais dans le plus fort de la saison, on est capable d'avoir 20 joueurs handicapés visuels sur la glace à tous les semaines sans problème, ce qui est quand même...
Tout à fait. Ça nous amène au tournoi qui va avoir lieu le prochain week-end à Toronto. À ce tournoi-là, c'est important de le dire, il va y avoir, parce qu'il y a aussi des équipes aux États-Unis, puis il y en a des noyaux là, qui commencent en Europe, il va y avoir des gens de Grande-Bretagne, de Finlande, des États-Unis, du Canada, qui vont compétitionner dans différentes classes. Il va y avoir des compétitions pour les enfants, il va y en avoir pour les adolescents. Il y a une classe féminine, parce qu'il y a près de 20% des joueurs-joueuses sont des joueuses de hockey sonore à travers le pays. Et il va y avoir une classe ouverte pour dans un but récréatif. Mais aussi, ce qui nous occupe, toi et moi, Julien, c'est que nous sommes membres de l'équipe nationale. Alors, il y a une équipe nationale canadienne qui va performer ce week-end.
Ben effectivement, donc la classe internationale, si on veut, qui va compétitionner pour la quatrième fois contre l'équipe nationale américaine. Donc, c'est notre tour de les recevoir chez nous pour, comme je disais, la quatrième fois. C'est la première fois que ça va être fait dans le cadre du tournoi national de hockey sonore. Donc, le tournoi de Toronto... Fin mars, c'est le tournoi annuel, c'est le grand rendez-vous du hockey sonore mondial, si on peut dire.
Oui, tout à fait.
Il y a un tournoi à être, c'est celui-là. Puis là, cette année, ben, ça va être une édition record, comme tu l'as dit, avec 6 classes différentes, hein, enfants, adolescents, femmes,
Base vision aussi, je l'avais oublié de le dire.
Oui, base vision, exactement. Classe ouverte qui va être à 4 équipes, donc c'est la plus grosse classe ouverte. Et en plus d'avoir la catégorie internationale, donc les joueurs internationaux ne vont pas jouer dans la classe ouverte, ce qui habituellement
tout
est le cas.
Tout à fait.
Et 175 joueurs, 180 joueurs, joueuses.
En fait, c'est le plus gros événement de sport handicapé visuel au Canada, point à la ligne. Et ce qui est important de savoir, c'est que les matchs vont être présentés en direct sur YouTube. Il y a effectivement le canal YouTube de, c'est en anglais, Canadian Blind Hockey. Vous pitonnez Canadian Blind Hockey sur YouTube, vous allez pouvoir voir tous les matchs décrits et décrits d'une façon qui permet à des personnes qui ont peut-être de la difficulté à suivre la vidéo de quand même pouvoir suivre le match. Et ouais. Si on peut se permettre de parler pour notre paroisse, Julien, nous, c'est à 11h vendredi matin, c'est à 15h samedi, c'est à 9h du matin. On sera en direct sur YouTube et on va essayer de battre les Américains, virgule, une autre fois.
Ah, encore une fois, parce que bon.
Ben voilà, on le dira pas, mais.
En trois séries, on a gagné trois fois. Mais l'idée derrière tout ça, non seulement c'est de garder notre titre de champion, mais aussi, bien sûr, qu'à travers le tournoi de.
Sans détour avec François Beauregard.
De retour et en compagnie d'Esther Hardy. Esther Hardy, qui encore une fois a fait le tour du monde. Décalage horaire, ça ne vous dérange pas du tout, Esther?
Pour une raison que j'ignore, François, ça semble bien aller.
tant mieux. Alors, en fait, la journée mondiale de la trisomie 21, c'est le 21 mars.
Oui.
Demain. Et dans ce sens-là, il y a toutes sortes d'activités.
Il y a beaucoup d'activités. D'ailleurs, trisomie 21 France s'est vraiment positionné cette année. En fait, d'emblée, on nous dit « À quand un député avec une trisomie 21? » Donc, cette année, on veut « Avec nous, mais pas à notre place ». C'est leur slogan.
D'accord.
À l'occasion de la Journée mondiale de la trisomie 21. Donc, on dit qu'on veut interpeller les responsables politiques en ce mois spécial, l'objectif étant de permettre aux personnes déficientes intellectuelles de participer à l'évolution des lois et des institutions. Elles veulent que les décisions les concernant soient prises avec elles et non pas à leur place. Elles réclament le respect de leurs droits, l'accessibilité à tous les services de droit commun, une information et une formation à l'autonomie afin de pouvoir s'exprimer librement, sereinement.
Oui, et ça, c'est beaucoup parce qu'en France, ça va pas très bien. La France a été, si on peut dire, pointée du doigt.
Ah, bon,
parce qu'aujourd'hui encore, l'ONU a épinglé en 2022 la France pour sa mauvaise application de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. Et dans ce sens-là, c'est un peu gênant pour une société évoluée, là,
ouais.
Un phare de la civilisation occidentale, peut-on dire,
oui.
De se faire pointer du doigt par l'ONU comme étant pas tout à fait... au niveau là, pour l'application d'une convention qui a évidemment été signée aussi par le gouvernement français. Alors, Trisomie 21 en France organise différentes actions.
Oui, ils organisent différentes actions tout le long du mois de mars. Ils demandent à chaque personne concernée de faire passer des messages aux responsables politiques à travers différents supports, des lettres, des vidéos, pour exprimer ce qui doit changer au niveau de la loi. Des rencontres avec les élus auront lieu d'ailleurs à l'échelle nationale et locale pour faire entendre ces revendications sur le terrain. Donc, se référer à Trisomie 21 France pour avoir plus d'informations sur les activités.
Et ça peut aussi donner l'occasion à des groupes ici de voir ce qui se fait ailleurs.
Oui,
et d'emboîter le pas parce que la santé mentale est aussi le sujet d'une campagne. On va y revenir tout à l'heure là, quand on revient à la maison.
Chez nous.
Mais avant d'aller à la maison, en Suisse, les familles d'enfants en situation d'handicap.
Oui, en fait, c'est que les familles avec des enfants souffrant d'un trouble psychique sont en augmentation présentement en Suisse, peut-être partout au monde, mais disons qu'on va se, se
focusser. Se cantonner. Oui. Ah là là là, on se retient pas. Allons-y.
Ben voilà. Pour les familles d'enfants avec tous les types d'handicap, l'Association suisse d'entraide destinée aux personnes avec handicap, qu'on appelle ProCap, réédite un livre qui regroupe les principaux droits aux aides et aux indemnités. En fait, ils font cela parce que tout simplement, ils n'ont pas d'informations. Par exemple, il y a un monsieur qui a eu un diagnostic il y a 3 ans de son fils et qu'une fois qu'il a eu son diagnostic posé, il n'y avait personne pour lui donner aucune, quelle que soit l'information, aucun, rien du tout.
Le médecin lui a dit « Votre enfant vit une situation d'handicap ». Et après ça, silence radio.
Voilà. Donc, lui, il a dû s'informer autour de gens, dans son entourage. Naturellement, il n'y avait à peu près pas d'informations pertinentes. Donc, ProCap, avec ce nouveau livre, espère justement donner un peu plus d'informations. D'ailleurs, l'avocate du regroupement dit que cette juriste dit, en fait... Pardonnez-moi, je me reprends. Elle dit qu'elle confirme que ces familles-là ne sont pas assez aidées. Donc, c'est une situation qui est difficile, là.
Ben oui, parce que, en fait, on parlait tout à l'heure des manquements en France par rapport à la charte de l'ONU du droit des personnes en situation d'handicap, mais c'est un peu la même chose en Suisse, parce qu'il me semble qu'on a parlé de la Suisse à quelques reprises au cours des dernières semaines. Et là, on constate qu'il y a un fossé là, entre le diagnostic et la prise en main par les services sociaux. C'est faible.
Donc, hein? D'ailleurs, afin de venir en aide aux familles concernées, ProCap organise en ce moment une série de soirées d'information en Suisse romande.
Bon, ben donc, bravo. Bon, on leur souhaite que ça puisse fonctionner puis qu'il y ait un mouvement de ce côté-là. En parlant de mouvement, on n'est plus téméraire. En Belgique, on fait de la course automobile.
C'est vraiment étonnant. Vous qui êtes sportif, François, vous les comprenez sûrement. En fait, c'est M. Lewis Hamilton.
Qui est le champion du monde, hein, de F1, voilà.
Voilà. En 2004, Luc Kostermans perd la vue de façon brutale et en même temps sa capacité de conduire. Donc, naturellement, c'était quelqu'un qui aimait vraiment la vitesse. Ce mordu d'adrénaline ne peut se résoudre à lever le pied. Quelques semaines avant de devenir aveugle, Luc avait d'ailleurs visionné un film qui s'appelle « Pour la dernière fois ». Donc, prémonitoire.
Oui, oui, oui. Mais il a mis, si on peut dire, l'épaule à la roue. Hein? Oui. Et en 2008, il bat le record du monde de vitesse, ce monsieur Luc Kostermans, le record de vitesse à 308 km avec une Lamborghini.
Oui.
J'espère qu'il y avait... C'était une ligne droite.
Oui, définitivement. Puis même encore beaucoup d'instinct, parce que même ceux qui, personnellement, on met un foulard, puis je ne suis pas sûre que j'irai en ligne droite sur une ligne droite. Oui. Ça prend plus que ça encore.
Cela dit, le 15 mars dernier, la semaine dernière, il y a eu 9 personnes en situation d'handicap visuel qui sont allées faire de l'auto grande vitesse, là, au circuit de Spa-Francorchamps. Alors ça, c'est pas rien, Spa-Francorchamps, là. C'est le circuit de F1 de Belgique, là. Hein? on sait que c'est du sérieux.
C'est en fait le premier stage de conduite pour déficients visuels qui est organisé par le biais de l'association Les Non-Voyants et leurs drôles de machines. C'est très drôle.
D'accord,
comme nom.
Ouais.
C'est vraiment... Bon, comme vous dites, basé dans le drôme. Son objectif, c'est de réaliser des exploits a priori insensés pour les adhérents. Puis ce qu'il veut, par-dessus tout, c'est finalement donner l'opportunité pour eux de reprendre confiance en soi, de se sentir intégré. C'est merveilleux.
Oui, c'est la moindre des choses. Et quand on parle de se sentir intégré et de prendre confiance en soi, là, évidemment, il y a toujours des gens qui font des trucs extraordinaires. On a parlé de ces fous du volant handicapés visuels en Belgique, mais évidemment, là, dans ce cas-ci... Il y a quelqu'un à côté qui peut les aider à prendre des courbes, là.
Oui.
Mais cette sensation de vitesse puis de liberté, si je peux dire, là, c'est quelque chose auquel on aspire. C'est pas parce qu'on a perdu la vue qu'on veut pas revivre ce genre d'émotion-là. Cela dit, aux États-Unis, là encore, il y a quelqu'un qui fait parler d'elle, si je peux dire.
Tout à fait. En fait, on connaît tous l'émission The Voice, La Voix au Québec.
Oui.
Naturellement, aux États-Unis, c'est The Voice qui est diffusée partout. Donc, il y a une malentendante qui est allée à l'émission et qui a vraiment fait tourner des chaises.
Mm-hmm. Oui, oui.
Donc, elle a été choisie. C'est fantastique. Puis, elle dit d'elle-même, on m'a toujours dit, tu ne seras jamais capable de faire les choses normales que les autres font. Puis, elle voulait prouver qu'elle était capable, qu'ils avaient tort. Peu importe quel handicap vous avez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, a-t-elle dit d'emblée.
Bien, et c'est tout à fait vrai, dans la mesure où on ne met pas les autres en danger. Là, il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on fait. Ça, c'est quelqu'un qui joue au hockey sonore qui vous le dit.
Oui.
Bravo. Cette chanteuse amateur américaine, au moment où on se parle, parce que dans le concours de Voice, là, on parle des gens qui sont... qui sont des amateurs.
Oui.
Donc, la carrière n'est pas encore
c'est les premiers
encore
pas,
lancée.
En fait.
Ben, bravo.
Pas.
Alors, elle s'appelle Ali, tout simplement.
Ouais.
Et elle a chanté « Killing Me Softly with His Song ». Alors, je ne vous la chanterai pas parce que je n'ai pas son talent.
Ceci
et je suis
dit,
certain que vous allez pouvoir retrouver la mélodie facilement.
Mais je vous invite à aller l'écouter. C'est fantastique ce qu'elle a fait parce que, bien qu'elle ait des appareils auditifs, ceux-ci ne peuvent pas corriger son ouïe à 100%.
Donc, elle de pouvoir dit... chanter juste, là,
c'est quelque chose.
C'est très bon. Ben, bravo. On espère qu'on va l'entendre à nouveau. Il y a un dessin animé, une série animée qui s'appelle Thomas et ses amis, hein, qui aide ou permet aux jeunes enfants de se familiariser avec l'autisme.
Oui, en fait, ça s'appelle Tfou.
Tfou. La chaîne s'appelle T'es fou.
C'est sur TF1.
Oui.
Qui va diffuser un épisode spécial de la série animée Thomas et ses amis qui accueillera pour la première fois une personne, un personnage autisme,
ouais.
En fait. Le 2 avril, les enfants auront un rendez-vous avec un épisode spécial de 60 minutes destiné à introduire Bruno, le premier personnage autiste de la série destiné aux enfants préscolaires et à l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Donc, on y participe de bellement, d'une belle façon. D'après la société productrice de cette série, l'introduction de Bruno met l'accent sur une population encore trop peu représentée dans les programmes pour enfants et qui mérite d'être mise en lumière, en effet.
Et ce qui est important de comprendre, et là aussi, parce que quand on parlait dans le passé, ici à l'antenne de Sans détour, de la représentation des personnes en situation de handicap, souvent, on se plaignait, et à juste titre, que parfois, en amont, la planification était faite par des personnes valides, là, qui faisaient peut-être de leur mieux, mais dont les sensibilités n'étaient pas tout à fait les mêmes. Alors, Bruno est un personnage qui a été imaginé par des scénaristes qui eux-mêmes vivent avec des troubles du spectre de l'autisme, comme Daniel Sherstrom et Aaron Lincoln. Et des organismes comme Autism Self-Advocacy Network et Easter Seals Southern California. Donc, ce sont des organismes américains qui sont derrière la création du personnage de Bruno, le personnage dans la série animée. Donc c'est des gens qui, en toute connaissance de cause, ont créé ce petit personnage qui va permettre aux enfants préscolaires dans la francophonie de découvrir peut-être et de mieux comprendre la différence. Alors ça s'appelle Thomas et ses amis. Il faudra vérifier si on peut,
prendre ici,
TF1.
Ouais, je sais pas.
Est-ce qu'on peut y avoir accès ici?
Peut-être sur Internet.
Chez nous? Hein, ce serait peut-être une bonne idée de voir si on est capable d'avoir accès à cette émission-là.
Oui, c'est très intéressant parce que dès qu'on... qu'on sensibilise une personne en bas âge, pour le restant de sa vie, pour elle, ça devient... commun, ça devient correct, ça fait partie de sa vie.
C'est banal et il
voilà,
n'y a plus d'exception là.
Hein,
peut-être qu'un jour, on va avoir une société où on arrête de tourner la tête, hein, façon de parler.
Ça serait bien,
hein,
vous avez raison.
Qu'est-ce qu'il y a, lui? Qu'est-ce qu'il y a, elle?
Ouais.
Voilà, bon, mais enfin, en parlant de sport, c'est vraiment, c'est le thème de l'après-midi.
De la hein? journée, vraiment.
Voilà, Handisport Université de Tunis.
Troisième édition, oui, du Festival Handisport. En fait, ça a eu lieu le 15 mars.
Ah, d'accord.
Dans le cadre de son engagement envers les valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion, l'Université de Tunis El Manar organise en collaboration avec la Fédération tunisienne d'Handisport la troisième édition du Festival Sport universitaire. Donc, c'était mercredi dernier, le 15 mars. Et on accueille normalement 1000 jeunes qui participent pour découvrir et poursuivre les activités dédiées aux personnes en déficience visuelle, auditive et physique. Ce n'est pas rien.
Et un programme riche et varié au profit de tous les étudiants avec ou sans déficience. Et là encore, c'est intéressant parce que ça a permis de faire tomber les barrières et de permettre à des gens qui sont valides de découvrir des parasports. Mais plus encore, non seulement il y a eu du parasport, il y a eu du théâtre, de la musique, il y a eu des compétitions amicales avec des équipes mixtes formées par des étudiants valides et d'autres en situation d'handicap. Alors là encore, ça l'a permis de faire plutôt une communauté plutôt qu'un ghetto. Hein? Ça, c'est quelque chose qui est assez important.
Et des activités plaisantes, naturellement.
Ben voilà, tout à fait. On vous revient dans quelques minutes, on revient au pays. De retour, Esther, il y a eu de très beaux portraits qui ont été dressés dans les médias au cours de la dernière semaine et ça nous a touchés.
Oui, ça nous a touchés. En particulier, en fait, Mademoiselle Maryse Glaune-Beaulieu, qui présentement, elle est technicienne en appui en cécité et basse vision au consortium Centre Jules Léger à Ottawa.
Et ça, pour ceux qui veulent retrouver la nouvelle ou lire tout le portrait, je pense qu'il y en était question à Radio-Canada.
Oui, on en a parlé à Radio-Canada. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle transcrit des textes en braille, elle crée des images tactiles dans le cadre de son travail. Elle aide les jeunes atteints de cécité à développer leur plein potentiel. En fait, ce défi, elle le connaît bien parce qu'elle est elle-même aveugle depuis l'âge de 6 mois. Et cette demoiselle demeurait, en fait, dans la région du Niagara. Dès le début de l'enfance, ses parents se sont demandé dans quelle école on va l'envoyer. Tous deux enseignants, ils se sont battus, en fait, pour qu'elle ait accès à une éducation adaptée à ses besoins. Mais il n'était toutefois pas question qu'elle étudie dans une école spécialisée.
D'accord.
Donc ça, c'était quelque chose d'extrêmement important pour eux. La seule école, de toute façon, qui existait à l'époque était très loin de chez eux et elle était en anglais. Donc, si elle était allée, mademoiselle...
elle aurait perdu son français,
carrément, disons-le. Ouais. Donc, dans une région où est-ce que, justement, il y a peu de francophones, c'était important pour elle de garder son français. Donc, elle est allée dans une école qui est non spécialisée, qui est la petite école du coin, parce que ses parents ont participé à l'élaboration du projet de loi 82 en Ontario, okay, qui stipulait que tous les élèves en situation d'handicap devaient recevoir des services spécialisés dans leur école de quartier et dans la langue de leur école de quartier.
Oui, alors ça, c'était une avancée importante.
C'est un grand défi.
Parle des années 90.
Oui, voilà. Mais ce faisant, vous voyez, on a le résultat aujourd'hui. Cette demoiselle-là a vraiment fait sa vie avec le braille. En fait, l'audio n'existait pas vraiment à l'époque, donc elle était obligée de s'adapter au braille. Elle l'a appris, puis maintenant, pour elle, c'est le B.A.B.A. Oui. Donc, elle peut l'enseigner avec beaucoup de facilité. Puis aujourd'hui, elle souhaite inspirer les jeunes atteints de cécité avec qui elle travaille au quotidien à poursuivre leurs rêves et à développer leur plein potentiel.
Bon.
Parce qu'elle disait, en fait, j'étais même étonnée de savoir qu'elle a fait une maîtrise en éducation. Puis elle, c'est un défi quand même de faire ça.
Surtout que peut-être au moment où elle l'a fait, les programmes d'intégration des personnes en situation de handicap n'étaient pas encore tout à fait au point. Alors ça, c'est un très beau portrait qu'on retrouve sur Radio-Canada. On peut aller en ligne pour en savoir davantage. Donc, Mme Claude Beaulieu est dans la région d'Ottawa maintenant.
Vraiment, oui.
Tout comme, si vous lisez le droit, le journal quotidien francophone dans Ottawa-Gatineau, il y avait un très beau portrait de M. André Sanche, qui est décédé pas si longtemps que ça, fin février. Ouais. M. Sanche a passé une vie complète à se dévouer pour faire avancer les droits des personnes en situation d'handicap dans la région de Gatineau. On l'appelait, comment je dirais ça, familièrement, le Bobineau des personnes handicapées, parce que c'était le cousin de Guy Sanche qui a fait Bobineau. Mais cela dit, donc, M. André Sanche a vraiment laissé sa marque dans la région de Gatineau et il y a eu un très beau portrait posthume, un hommage qui lui a été rendu dans le journal Le Droit. Alors, si vous avez été un jour ou l'autre en contact, en relation avec M. Sanche et vous vous souvenez de son travail, bien, vous pourrez aller lire ses pages dans Le Droit.
En fait, il faut savoir qu'il a été amputé en bas du genou en 1980, donc il est devenu lui-même handicapé.
Oui, exact.
Et donc, de défendre les droits des handicapés, il est devenu son cheval de bataille. Donc,
voilà,
il est devenu... D'ailleurs, il est devenu vite le meilleur coureur en fauteuil roulant du Québec.
Ah oui? Ah,
Il
a doublé son intervention sociale par une belle carrière sportive.
Voilà. Mais il a été bénévole indispensable auprès de l'Amicale des handicapés physiques de l'Outaouais. En fait, il a fait 1000 choses. Je pense que c'est intéressant d'aller voir son parcours, là.
Oui, tout à fait.
Combattant selon son fils.
Exact. Puis ça peut inspirer d'autres personnes qui milite pour les droits des personnes en situation d'handicap. Cette semaine, c'est la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Et ça, c'est du 19 au 25 mars. Et il y a toutes sortes de choses autour de ça.
Oui. Donc, c'est une occasion de sensibiliser l'ensemble de la population aux réalités que vivent les personnes et leurs proches, les personnes en situation d'handicap et leurs proches. Donc, on met de l'avant un principe éthique fondamental des droits de la personne. La dignité, c'est simple comme ça.
D'accord.
Donc, bien que le respect de la dignité semble être un concept acquis pour une grande majorité de la population, c'est en revanche pas toujours le cas pour les personnes ayant une déficience intellectuelle.
Exact.
Celles-ci doivent encore aujourd'hui bien souvent lutter pour que ce droit fondamental soit respecté. La dignité est un concept aux multiples dimensions. Et ce qu'on veut dire, en fait, quand on parle de dignité, par exemple, c'est d'avoir accès à une éducation scolaire riche et inclusive, s'épanouir en ayant accès à un milieu de vie convivial qui leur convienne, en fait, bénéficier de services accessibles, gratuits et de qualité, et avoir les moyens de pouvoir subvenir à ses besoins fondamentaux. En fait,
oui,
travailler, c'est pas compliqué.
Parce que l'autonomie, ça, c'est la dignité.
C'est la base.
Voilà.
Les organismes en défense des droits proposent des avenues novatrices pour améliorer la qualité de vie des personnes ayant une déficience intellectuelle. Il existe déjà des modèles inspirants, notamment en éducation, en emploi, en hébergement. Avec une écoute et une volonté des décideurs, il y a place pour faire du Québec une société beaucoup plus inclusive.
Mais ça rejoint un peu ce qu'on avait tout à l'heure en début de revue de presse, hein, avec Trisomie 21 France.
Ouais.
C'est un peu le même combat. Mais ça peut aussi, la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, peut aussi être célébrée, si je peux dire, d'une façon plus artistique. Hein? Alors, c'est dans la région de Sorel-Tracy, l'Association de déficience intellectuelle de la région de Sorel et de la maison Alte Sorel a voulu souligner l'événement, un vernissage, ça c'est encore une fois, c'est pour la semaine de la québécoise. Le vernissage aura lieu le dimanche 19, c'était hier
en fait.
Voilà,
oui.
Dans les locaux de l'Association de déficience intellectuelle de la région de Sorel, sur le chemin des Patriotes à Sorel-Tracy, l'exposition met à l'honneur des personnes inspirantes ayant une déficience intellectuelle, des gens de la région. D'autres initiatives ont lieu dans la région. Alors, on voit que du côté de Sorel-Tracy, ça bouge dans le cadre de la semaine, mais il y en a un peu partout au Québec. Alors, on vous invite à aller faire un tour sur les sites dans votre localité.
Oui, d'ailleurs, on souligne ici que cet organisme-là en particulier publiera tous les jours sur ses réseaux sociaux des photos, des vidéos, des affiches. Je pense que ça peut être constructif pour tout le monde à ce niveau-là. Là.
Exact. La Fondation, pour terminer, la Fondation Réa. La Fondation Réa, c'est pour l'Institut universitaire de réadaptation en déficience physique de Montréal. La Fondation hospitalière spécialisée en réadaptation, qui regroupe l'Institut Gingras-Lindsay de Montréal, le Centre de réadaptation Lucie Bruno, l'Institut Raymond Devoir, tous ces organismes-là. Ils ont une fondation, et cette fondation-là, chaque année, lance un programme de bourse. Et ça, c'est important parce que le programme de bourse d'études est destiné aux personnes en situation de handicap. Ce programme-là est rendu possible grâce à la participation financière de la Fondation Groupe Forget, la Fondation Jodoin, MAMOD, ainsi que le groupe financier industriel Alliance et ces bourses qui permettent de poursuivre des études supérieures à des personnes en situation de handicap. La date limite des inscriptions, c'est le 3 avril. Alors, on a à peu près 2 semaines devant nous. Vous allez sur le site de la Fondation REA, R-E accent aigu A, vous avez tout ce qu'il faut pour remplir un formulaire et peut-être décrocher une bourse d'études. Alors, ça sera...
En fait, c'est intéressant de souligner qu'il y a 12 000 $ qui seront offerts à 4 lauréats, donc 4 bourses de 3 000 $ chacune. Soulignons aussi que pour ce qui est de la bourse qui est offerte par la Fondation du groupe Forget, naturellement, c'est pour ceux qui ont une déficience auditive.
Oui, oui.
Et donc, il y a des informations à remplir qui sont plus pointues, puis peut-être, je pense même, ça doit être souligné là, par...
Parfait. Ben oui, ouais. Ben voilà. Et c'est le 3 avril, on va sur le site si ça nous intéresse, on s'y inscrit. Comme ça, on va pouvoir financer nos études supérieures. Pour terminer, Piéton Québec, dont nous parlons régulièrement. C'est comme l'hiver des piétons et c'est
la
tant
semaine
mieux
dernière,
parce
oui.
qu'il faut en parler. En collaboration avec Vélo Québec, ils organisent une formation, mais pas pour tous.
Non, malheureusement, c'est seulement... Mais en fait, c'est excellent.
C'est malheureusement, excellent de... ou dit autrement, oui. C'est une belle
une bonne
chose.
Parce que c'est pour le milieu municipal. Donc, c'est une formation qui va avoir lieu là, à partir du 18 avril à Mont-Joli, le 25 avril à Québec, 3 mai, Salaberry-de-Valleyfield.
Il y a toutes sortes de dates, ça se poursuit jusqu'à l'automne,
septembre,
l'hiver
voilà.
prochain. Ils font le tour de la province et ils vont voir les municipalités pour les aider à mieux concevoir leur aménagement. Et de cette manière, peut-être continuer à faire de la place pour les piétons. Merci Esther.
Merci
C'est
à
tout
vous,
pour aujourd'hui.
François.
Merci à notre astrologue, astronome, qui sait quand le printemps arrive, Monsieur Mathieu Tessier, Claire Guérin dans les coulisses, notre recherchiste. On vous dit à dans 2 semaines, parce que là, on s'en va jouer au hockey. À bientôt.